Soyez les bienvenus, merci de nous rejoindre, le journal Marc Fauvel. Bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, Donald revient, c'est l'appel d'Emmanuel Macron à Donald Trump alors que s'ouvre aujourd'hui un nouveau sommet mondial sur le climat à Paris. Le président français veut croire à un retour des États-Unis dans l'accord sur le climat, on l'écoutera. On verra également sur quoi peut déboucher cette réunion. Et puis à 8h20, comment rendre la finance un peu plus verte? Nicolas, vous posez la question à votre invité, c'est Bruno Le Maire.
Le ministre de l'économie et des finances, vous pourrez dialoguer avec lui à 8h40, 01 45 24 7000 pour toutes vos questions.
Dans ce journal également, je ne reconnais plus ma famille. Xavier Bertrand claque la porte des Républicains version Wauquiez. Le sort des prisonniers corses au cœur d'un bras de fer entre les nationalistes et Paris. Faudra-t-il lever le pied sur les nationales et les départementales? Le passage à 80 km/h se rapproche en tout cas. Et puis à la fin de ce journal, la Calas au cinéma 40 ans après sa mort.
France Inter.
Mais d'abord, le viol comme arme de guerre, c'est un document rare que s'apprête à diffuser France 2 ce soir. Il nous plonge dans la Syrie de Bachar el-Assad et dans ses prisons. Des viols quotidiens utilisés pour briser les femmes, mais aussi pour les salir, les bannir aux yeux de leur famille. Elle témoigne aujourd'hui de ce plan méticuleusement préparé par le régime. Alexandra Hakoun.
Certaines ne sont que des ombres filmées de trois quarts. D'autres, au contraire, osent donner à la caméra toute la souffrance de leur regard, dans leur bouche à toute l'horreur de ce que les soldats du régime leur ont fait subir.
Ils ont violé mon amie devant moi. Une autre amie qui était enceinte, ils l'ont tellement violée qu'elle a accouché devant moi. Elle était enceinte de 7 mois et demi.
Des cas isolés? Au contraire, un système d'État mis en place dès le début de la Révolution en 2011 est parfaitement réfléchi, la réalisatrice Manon Loiseau.
Ils savaient très bien que ces femmes, quand elles sortiraient, elles seraient rejetées par la famille et c'était briser l'honneur de leur mari, de la famille, et donc briser la société syrienne.
Quand ma mère a vu la situation, elle a eu peur pour moi. Elle m'a demandé de partir. Elle m'a dit « Tes frères vont te tuer ». Une fille à laquelle il arrive une telle chose, qui se fait violer, on la tue.
Double peine pour ces femmes traumatisées qui, malgré tout, osent pour la première fois briser le silence parce qu'elles ont été contraintes à l'exil et parce que le conflit dans leur pays est entré dans une deuxième phase.
Finalement, leur seul espoir aujourd'hui, puisque Bachar al-Assad semble devoir rester, c'est que leur bourreau soit un jour jugé dans une cour pénale internationale et aussi pour faire sortir les milliers de femmes qui sont encore dans les prisons du régime syrien.
Servie par une réalisation pleine de pudeur qui sait aussi faire la part belle au silence, Syrie, le cri étouffé est plus qu'un documentaire, c'est une œuvre d'utilité publique.
Et c'est à voir ce soir à 23h sur France 2, interview de la réalisatrice Manon Loiseau en longueur sur franceinter.fr.
50 pays représentés, Marc, mais quelques chaises vides aujourd'hui à Paris.
Encore un sommet mondial sur le climat, cette fois à l'initiative de la France, de l'ONU et de la Banque mondiale. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement, mais il y aura quelques absents et de taille. Angela Merkel, retenue à Berlin pour cause de coalition introuvable. Vladimir Poutine, qui sèche le rendez-vous. Et le plus climato-sceptique des grands de ce monde, Donald Trump, qui est Emmanuel Macron ne désespère pas de faire changer d'avis. Il peut revenir et signer enfin l'accord de Paris. Le chef de l'État l'a dit cette nuit sur la chaîne américaine CBS.
Vous savez, plus de 190 pays ont participé aux négociations de cet accord de Paris. Je suis désolé, mais je ne suis pas prêt à renégocier avec autant de monde autour de la table. Quand vous signez un traité, il faut respecter cela. Les États-Unis sont un grand pays, les États-Unis ont signé l'accord de Paris, c'est très agressif de décider seul de son côté de partir comme ça. Et non, il n'y a aucun moyen d'obliger les autres à renégocier parce qu'un seul a décidé de partir. Je suis désolé de le dire, mais ça ne se passe pas comme ça. Donc désolé, mais je pense que c'est une grande responsabilité vis-à-vis de l'histoire. Et je suis presque certain que mon ami le président Trump va changer d'avis dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Je le pense, j'espère. Je ne suis pas prêt à renégocier, mais je suis prêt à l'accueillir s'il veut revenir.
Traduction assurée par Grégory Phillips. Alors nous sommes seulement 3 semaines après la dernière COP qui vient de s'achever en Allemagne. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Pourquoi ce rendez-vous aujourd'hui et pourquoi à Paris?
Eh bien Emmanuel Macron, le français le plus retweeté au monde après son Make Our Planet Great Again, compte bien capitaliser sur cette image de champion du climat, gardien du temple de l'accord de Paris. Paris, pourquoi pas, capitale mondiale de la finance verte. Un pari risqué, vous le disiez, ce sommet arrive tout juste 3 semaines après la COP23. Et s'il s'était déjà tout dit à Bonn, les 4000 invités. Relativement peu de chefs d'État aujourd'hui à Paris. Les gros pollueurs comme la Chine, l'Inde, le Canada ont dépêché leurs ministres. Washington sera représenté par le chargé d'ambassade américaine à Paris.
Alors l'enjeu de ce sommet, c'est l'argent. Comment inciter les banques, les fonds de pension à investir dans les énergies propres plutôt que dans les bons vieux puits de pétrole?
Un chiffre, 3500 milliards de dollars par an pendant 30 ans. C'est la somme colossale qu'il faut pour financer l'accord de Paris d'après l'Agence internationale de l'énergie. Ce sommet climat ressemble à un speed dating. C'est mis en relation entre banques privées et publiques, fonds de pension, entreprises, décideurs. L'enjeu, redonner un électrochoc pour changer de cap. La planète se dirige tout droit vers les plus de 3 degrés de réchauffement. Il faut décarboner l'économie, verdir les investissements. Les ONG se méfient des incantations pour sortir des énergies polluantes. Ce matin, elles vont former une fausse vague bleu pétrole devant le Panthéon pour dénoncer l'addiction de la planète aux énergies fossiles.
Merci Sandy Dauphin, on vous laisse. Vous partez tout de suite couvrir ce sommet qui débute ce matin. Plus d'argent vert pour la planète, c'est donc l'ambition du jour pour aider les pays en voie de développement à vivre mieux tout en réduisant leur empreinte carbone. Comme ici au Sénégal, grâce à des prêts de l'Agence française du développement, d'immenses fermes solaires ont pu voir le jour. Reportage à Thiès, à une centaine de kilomètres de Dakar, signé Rosalie Lafarge.
Ils s'étalent à perte de vue. 90 000 panneaux solaires sont installés sur plus de 60 hectares de terre, jusqu'ici agricole. Massamba Gueye est le représentant des habitants des environs de la centrale de Sentiumere.
Bien sûr, nous avons sacrifié des hectares de manioc, mais en revanche, nous ne sommes pas mécontents du tout. Parce que chaque hectare de terre a été indemnisé à hauteur de 3 millions de francs CFA.
Des agriculteurs indemnisés et associés au projet.
Tous les panneaux que vous voyez ont été montés par les villageois.
Karim Ndiaye est le directeur des investissements de Meridiam, le promoteur de la centrale.
On est sur une puissance installée de 30 MW. Donc 34 000 tonnes de CO2 par an qui sont économisées. Donc c'est un projet important qui implique qu'on puisse faire bénéficier de l'électricité produite ici à plus de 250 000 ménages.
L'un des enjeux majeurs, c'est évidemment l'accès à l'électricité. Les villages autour de la centrale doivent être progressivement raccordés au réseau national. En attendant, Saïna Boundiaï a reçu un panneau solaire posé sur le toit de sa maison. Il fait briller une ampoule le soir.
C'est vraiment très bien. Maintenant, les enfants peuvent étudier le soir, faire leurs devoirs. Ça n'était pas le cas avant. Et puis, on voit où on met les pieds et ça relance la vie du village.
Aujourd'hui, même si les choses avancent, seul un habitant sur quatre a accès à l'électricité en zone rurale au Sénégal.
Et hier, c'est EDF qui a donné l'exemple. Le groupe s'engage à investir 25 milliards d'euros dans l'énergie solaire dans les 15 ans qui viennent. La France, cinquième pays d'Europe pour son ensoleillement, reste un cancre dans cette énergie propre.
Inter, 8h08, s'il voulait lui gâcher la fête, Marc, c'est plutôt réussi.
À peine 24 heures après son sacre à la tête des Républicains, voilà Laurent Wauquiez confronté à son premier coup dur, premier départ en tout cas, celui de Xavier Bertrand. Le président de la région Hauts-de-France l'a annoncé hier soir sur France 2. Il rend sa carte. « Je ne reconnais plus ma famille », dit-il, dénonçant l'agressivité et la politique du bouc émissaire de Laurent Wauquiez. Réponse de l'intéressé, invité au même moment sur TF1. « C'est son choix, je le respecte, mais je ne vais pas regarder dans le rétroviseur. Alors les droites seraient-elles devenues irréconciliable ? Oui, répond sans détour le député Thierry Solaire, qui ne porte pas vraiment Laurent Wauquiez dans son cœur.
La victoire de Laurent Wauquiez, c'est la victoire d'une droite identitaire qui a toujours existé au sein de la droite, mais qui n'était pas majoritaire et qui l'est chez les adhérents, qui ne l'est pas chez les Français. Je l'ai bien vu à l'occasion de l'élection présidentielle. Il y a aujourd'hui deux droites. Il y a une droite identitaire qui tourne le dos à la construction européenne, qui est très populiste, quitte à critiquer aujourd'hui les réformes qu'elle réclamait elle-même il y a encore quelques semaines quand elle était dans l'opposition. Puis il y a une droite qui est pour la construction européenne, qui veut des réformes. Et moi, ma droite, c'est celle d'Edouard Philippe, de Gérald Darmanin, de Bruno Le Maire. C'est pas celle de Patrick Buisson ou de Laurent Wauquiez. Moi, j'ai entendu Laurent Wauquiez parler du grand remplacement à la télévision l'autre jour. Je croyais que c'était la sémantique de l'extrême droite française et pas celle, en tout cas, du parti qu'avait fondé Alain Juppé et Jacques Chirac.
Thierry Solaire, ex-LR, devenu député marcheur au micro de Jean-François Akili. Ils ne sont que 7, mais les nationalistes corses en font l'un de leurs combats. Quel sort pour les prisonniers corses dits politiques? 3 d'entre eux sont en prison pour le meurtre du préfet Erignac. 4 autres sont d'anciens membres du FLNC. Les nationalistes réclament leur transfert dans des prisons corses dans un premier temps, puis une amnistie. Cyril Graziani a rencontré la mère de l'un de ses détenus en détention préventive depuis 4 ans pour assassinat. Elle se bat pour que son fils, emprisonné à Meaux, en Seine-et-Marne, soit transféré en Corse.
De la fenêtre de sa maison, André Martini aperçoit au loin la piste de l'aéroport et à chaque fois la même pensée.
Un rêve de sans retour, au moins qu'il soit transféré à Borgo. Je n'aurai que 4 ou 5 kilomètres à faire.
Car aujourd'hui, pour voir son fils, en détention depuis 4 ans dans le cadre d'une enquête pour assassinat,
c'est la galère.
Galère pour se rendre en région parisienne, la double peine selon elle.
L'éloignement, certes, mais la cherté.
Et effectivement, chaque déplacement est onéreux.
260 euros un voyage. Je prends un taxi, c'est quand même 80-100 euros. La chambre d'hôtel, c'est une moyenne de 100 euros.
Vous ne regrettez pas de payer cette somme?
Ah non, pas du tout. Je suis une mère. Plutôt, je préfère ne pas manger.
Pourtant, André Martigny a cru à un dénouement proche au mois de mars, lors d'une visite de François Hollande.
J'ai rencontré sa Madame Justice, qui avait dit, il n'y a pas de problème, votre fils va être transféré. Et après, plus rien.
Quelques semaines plus tard, le candidat Macron lui fait la même promesse. Et depuis 6 mois... Elle ne monte donc plus à Paris, espérant chaque semaine le retour programmé de Cédric. À chaque fois, elle imagine la même chose.
Il rentre chez lui.
Même s'il est en prison.
Ah oui.
Car si cet indépendantiste corse milite pour l'amnistie des prisonniers, le simple transfèrement de son fils à la prison de Borgo lui suffira.
Reportage Cyril Graziani. S'agissait-il de caresses, de massages ou bien de viols? C'est une cour d'assises qui va le dire. Le procès de Georges Tron s'ouvre aujourd'hui. L'ancien secrétaire d'État avait dû démissionner suite à cette affaire. Il est jugé pour viol et agression sexuelle en réunion aux côtés de son ancienne maire adjointe à la culture à la mairie de Draveil. Deux femmes, anciennes employées de la mairie, affirment avoir été abusées sous couvert de séances de réflexologie.
Attention aux glissades ce matin dans le Nord et le Pas-de-Calais. Les
transports scolaires supprimé pour cause de neige et de verglas dans la foulée de la tempête Anna. 22 000 foyers ont encore passé la nuit sans électricité. Mais la tempête a également soufflé sur le sud-est. Promenade des Anglais fermée au public à Nice. Nice où l'aéroport vient de rouvrir il y a tout juste une heure.
Et devrons-nous bientôt lever le pied?
À son tour, le Premier ministre Édouard Philippe se prononce pour une réduction de la vitesse autorisée sur les routes nationales et départementales. Elle pourrait passer cette vitesse de 90 à 80 km/h. Décision attendue le mois prochain. Alors que la mortalité routière est repartie à la hausse, 6 accidents mortels sur 10 se produisent sur ces routes qui n'ont pas de séparateur physique. Illustration dans le Gers, Alain Gastal.
Dans le Gers, il n'y a pas d'autoroute, mais presque uniquement des nationales et départementales, souvent sinueuses et vallonnées, avec seulement 2 voies de circulation. Résultat, un habitant du Gers a 3 fois plus de risques de mourir sur la route qu'un Toulousain, qui emprunte aussi rocades et autoroutes, et 7 fois plus de risques qu'un Parisien. Car parfois, 90 km/h sur une chaussée à double sens, large de 5 à 7 mètres avec des intersections, c'est trop rapide, comme dans cet exemple que donne non loin de chez lui, près de la frontière espagnole, Bernard Ladevez, le directeur régional de la prévention routière.
Il y a 2 ou 3 ans, il y a eu 3 morts sur une portion de route donc, qui est de 1 km, toujours au même endroit. Hein. C'est une route où il y a une intersection. Il y a 2 radars double sens qui ont été placés donc, à 4 km d'intervalle. Depuis qu'il y a cette limitation de vitesse qui a été baissée à 70, eh bien, il n'y a plus d'accidents sur cette route, ou alors ce sont des accidents légers, mais il n'y a plus de morts.
La prévention routière estime à 400 le nombre de vies que pourrait sauver la baisse de 90 à 80 km/h de la vitesse autorisée sur les nationales et départementales. Et l'effort demandé aux conducteurs ne semble pas surhumain. La vitesse moyenne relevée sur ces axes n'est après tout que de 82 km/h. Toulouse, Alain Gastal, France Inter.
Et hier, c'est le délégué interministériel à la sécurité routière qui a estimé à son tour que cette limitation à 80 serait du simple bon sens. Des trains en compte-gouttes et des quais noirs de monde. Comme prévu, le trafic est très perturbé ce matin sur les lignes A et B du RER francilien. Pas plus de la moitié des rames en circulation sur ces deux lignes empruntées par 2 millions de personnes chaque jour. Les conducteurs sont en grève pour leurs conditions de travail. Petite victoire pour le fisc dans son bras de fer avec Airbnb. Le site de location immobilière va retirer la carte prépayée qu'il proposait à ses loueurs et qui leur permettait de ne pas déclarer leurs revenus, comme l'avait révélé la cellule investigation de France Inter. Déclaration et promesse du patron d'Airbnb France à la sortie d'une réunion hier soir à Bercy. Et puis, il faut réduire l'immigration. Réaction de Donald Trump cette nuit après la tentative d'attentat dans le métro de New York. Un homme originaire du Bangladesh a fait exploser une bombe artisanale à l'heure de pointe. L'attaque a fait 3 blessés légers. D'après la presse américaine, l'homme se serait radicalisé seul et aurait affirmé avoir agi au nom du groupe État islamique.
À 8h14, Marc, maintenant, la voix.
Et oui, la Calas revient au cinéma 40 ans après sa disparition avec un documentaire qui sort demain dans les salles, en même temps qu'un livre qui lui est consacré. Les deux sont signés du réalisateur Tom Wolf. Il a pioché dans les archives et rencontré les proches de la cantatrice Stéphane Capron.
Le documentaire n'est lu de rien de la vie tumultueuse de la divine. Ses triomphes, ses colères face aux paparazzi qui la suivent partout, ses amours et ses doutes. On perçoit bien dans les archives la fragilité de la star.
J'étais pas bien. J'avais la santé que je ne pas dire que ça a craqué, mais depuis mon enfance, j'ai l'air très, très costaud. Et je ne le suis pas. Et alors ensuite, la carrière qui était très dure et très belle, tous des énervements, toutes des choses. Et évidemment, un physique ne peut pas tenir le coup toujours.
Le film et le livre sont l'œuvre d'un amoureux de la calasse, Tom Wolfe, trop jeune pour l'avoir connu, mais devenu totalement accro à la diva.
Elle intéresse tout autant des gens qui écoutent de la musique pop ou autre que des gens du lyrique. Elle est la seule artiste à faire ce trait d'union et à rester quelqu'un d'éminemment populaire. Je crois que c'est un mystère, vraiment.
Pour mener à bien ses projets, Tom Wolfe a rencontré les proches de la cantatrice. Il a eu accès à des archives, dont beaucoup de lettres intimes qui n'avaient jamais été rendues publiques.
Si je te...
Maria by Callas, c'est donc demain au cinéma. Un mot du mondial de handball. L'équipe de France féminine est à un match seulement des demi-finales. Il faudra pour cela battre le Monténégro ce soir, 20h45. La rencontre est diffusée sur TMC. Enfin, attention à l'indigestion. Depuis sa mort la semaine dernière, un collège de Nîmes a remplacé la traditionnelle sonnerie par une chanson de Johnny Hallyday, une par jour, pour l'entrée, la sortie, la cantine, toutes les pauses. Hier, c'était quelque chose de Tennessee. Ce sera comme ça jusqu'à la fin de la semaine. Avouez que ça change des chorales de Jean-Michel Blanquer.
Et oui, un petit peu. Merci Marc Fauvel.